Mais j'ai le privilège de d'apporter la parole du Seigneur ce matin, en l'absence du pasteur. Ça fait des mois qu'il m'avait averti et que je préparais quelque chose. Je priais et puis je disais, Seigneur, conduis-moi parce que le premier concerné, ça doit d'abord être moi. Amen. Avant que je ne le partage, j'aimerais vivre ce que toi tu veux. Et le titre de ce partage s'intitule Persévérer et œuvrer pour ce qui n'est pas vain. Quelques mois après ma conversion, je vivais encore toute la joie et l'euphorie que vous connaissez tous et qu'on connaît tous lorsqu'on vient de rencontrer le Seigneur. Notre cœur est bouillonnant d'allégresse. On découvre l'amour véritablement, et on se laisse transporter. Et alors que j'étais dans cette euphorie-là, mon église, elle traversait une crise, un moment difficile, et du moins les responsables. Il y a une membre de l'église qui avait rencontré les responsables et qui avait demandé à ce qu'on prie pour elle. Et sa demande, c'était qu'on prie pour elle parce qu'elle aimerait retourner dans le monde. Chose terrible. Terrible pourquoi? Parce que c'était la première fois que les responsables se mettent en face d'une situation pareille. Et puis voilà, ils disaient, on a l'habitude de prier, de jeûner, de crier à Dieu pour que les gens viennent à l'église. Et voilà qu'on doit prier pour qu'une personne retourne dans le monde. C'était un déchirement de cœur. Et des conseils ont suivi. On a essayé d'accompagner cette sœur-là et on espérait, avec le temps qui passait, pouvoir avoir un avantage. Mais la position n'avait pas bougé. Et devant le constat de son statu quo, les responsables n'ont eu rien d'autre que de prier pour elle, pour la libérer de son engagement vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis de l'Église. C'était difficile. Et voilà, cette sœur n'est plus revenue à l'église. Nous la voyons parfois passer par là, mais nous n'avions plus vraiment de nouvelles malgré tout ce qu'on pouvait lui témoigner. Elle, au moins, on peut dire, elle avait fait preuve de clarté, même si c'est regrettable. Parce que très souvent, ce qu'on constate, c'est que la chaise est vide autour de nous, parce que quelqu'un a décidé de ne plus être là. Il y a eu énormément de raisons qui ont poussé cette personne à abandonner la foi. Mais que s'était-il vraiment passé pour cette sœur-là? Qu'est-ce qu'elle avait vécu? Je ne saurais le dire, peut-être les responsables pouvaient avoir toutes les informations possibles. Mais qu'est-ce qui peut pousser vraiment quelqu'un à renoncer à son salut? Parfois, je me suis posé la question. Elle qui, dans mes premiers pas, affichait cet enthousiasme, cette joie, mais cette joie s'était effritée. Le passage de base qu'on va lire ce matin, c'est dans 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Nous ne pouvons pas ignorer les dangers qui nous guettent en tant qu'enfants de Dieu. Aujourd'hui, tout comme il y a 25 ans au moment de ce témoignage que je viens de faire, et plus encore en arrière, nombreuses sont les oppositions à notre foi. Il faut sans cesse, sans se lasser, livrer bataille pour rester debout et tenir notre foi active. Les dangers qui nous attendent le long du chemin sont de multiples origines. Elles peuvent provenir de notre cercle familial, des rayons d'amis, des relations, de notre environnement secondaire, du monde même, de l'ennemi et même de notre rapport à la parole de Dieu. Parfois, on peut être dérouté à cause de son incompréhension ou de sa mauvaise interprétation. On peut également noter l'usure du temps. On se lasse. Ça fait 20 ans et puis après, on perd de la saveur. On baisse de régime. Et immanquablement, ce qui est au cœur de toute chose, le péché, qui s'installe là. La manifestation de leur origine, de leur influence, pardon, peut être visible ou non. Ça veut dire, voilà, on peut voir véritablement qu'on a subi un coup. Ou tout simplement, ça peut se passer en nous, au fond de notre être. Et leurs actions peuvent être subtiles. Ça agit à petite dose. Elles peuvent aussi être brutes. Ça veut dire, voilà, du jour au lendemain, il y a une cassure radicale. Elles peuvent être brusques ou méthodiques, fruit d'une construction lente et progressive. Comme une éponge, on absorbe des choses, on absorbe. Et des enseignements parfois erronés, et des doctrines parfois à l'opposé de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et après, le temps de coupure arrive. Dans les versets 30 et 31 de notre chapitre, ce chapitre 15 de 1 Corinthiens que nous venons de lire, Paul dit, « Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. » Une explication biblique fait comprendre que Paul fait référence ici aux risques qu'il court et aux oppositions de tout genre, que ce soit physique, spirituel ou théologique, qu'il rencontre en tout temps. Son intégrité physique et sa foi étaient soumises à de rudes épreuves. Aujourd'hui, est-ce que les choses ont changé en ce qui concerne notre foi? Je ne pense pas. Fort de ce qu'il vivait personnellement, Paul mesurait bien les dangers de son temps et ne manquait aucune occasion pour interpréter et inviter les églises et les chrétiens à l'unité de la foi et de la connaissance de Christ, à atteindre l'état d'homme fait. Dans Éphésiens 4, verset 14, il dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. » Et dans les versets 2 de 2 Thessaloniciens 2, il dit « Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Si nous parcourons tout l'ensemble, particulièrement du livre de Corinthiens, nous nous rendons compte que l'Église de Corinthe devait en permanence gérer des situations qui menaçaient sa cohésion et la vie spirituelle de ses membres. Remarquons dit qu'un ensemble de sujets faisait l'objet de débats et était source de violentes tensions. On peut citer entre autres le sujet de l'alimentation, manger ou non des aliments qui étaient sacrifiés, la question d'appartenance à tel ou tel autre prédicateur quand Paul était passé et que Pierre et Apollos sont suivis et que l'Église s'était divisée et d'autres se réclamaient de Paul, d'autres d'Apollos, d'autres de Pierre. Il y avait également le problème lié à la sexualité avec la débauche et l'absence d'intégrité sexuelle qui se vivait dans l'Église. Terrible. Et là, c'était une source de tension également. On peut aussi citer l'ordre et la bienséance lors des rassemblements dans l'Église, priant en langue ou pas, comment est-ce que ça devait se passer, quel était l'ordre, et là aussi c'était source de tension. Et face à tous ces problèmes-là, Paul était obligé chaque fois de tenir un discours, de rappel, de fermeté. Mais c'était des tensions qui étaient visibles et qui impactaient la vie des chrétiens. Il y a quelque temps, nous avons été entretenus par Luc Bussière lors du séminaire que nous avons connu sur le sujet de la transmission. Et il nous montrait combien le postmodernisme et les courants qui l'ont entretenu ont causé du tort à l'Église. Ces courants ont ébranlé certaines fondations de nos convictions et favorisé la mise à l'écart de Dieu dans notre société au profit des autres dieux et dans nos cœurs aussi. De nombreuses crises aujourd'hui continuent de faire chanceler l'Église et notre société. C'est la crise de sécuritaire, d'identité, la crise d'autorité, la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre. L'Église en prend un coup. Des hommes aussi sont érigés en sauveurs. Rappelons-nous ce qui s'est passé très récemment dans un pays qu'on connaît bien. La foi se vit et doit composer avec de nombreux compromis. D'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? La foi sans compromis n'est plus foi, car elle ne correspond plus à notre époque. C'est une foi avec compromis. Le monde avec ce système a aussi ses apôtres zélés, dont l'unique but est de tordre la réalité. N'oublions pas. Ne l'oublions pas. Masquer la vérité et semer la confusion dans nos cœurs. et c'est courant. Alors, les évangiles se multiplient ainsi que les clivages dans sa compréhension, son interprétation ou sa propagation. Nous nous retrouvons davantage dans un contexte où le message de notre Seigneur par notre proclamation et son vécu est contesté et le propager peut susciter moquerie et condamnation. Alors on devient tolérant, on use du politiquement correct, on laisse chacun construire sa propre vérité, ce qui lui est agréable d'entendre. Et de plus en plus on tend vers là. Un seul mot qui blesse dans une phrase, c'est un sujet de scandale. Il faut dire ce que la personne souhaite entendre. Et il en est de même pour l'évangile aujourd'hui. Qu'est-ce que la personne souhaite entendre de notre évangile? Bien-aimé. Alors, non seulement ce qui lui est agréable à entendre, ce qui permet de rester ouvert aux autres. Ah ben, s'il faut que je reste ouvert dans la société où je suis, s'il faut que je reste accueilli par ceux qui sont autour de moi, il faut que j'adapte mon langage, mon attitude. Mais bien aimé, qu'est-ce qui pourra changer le fait qu'il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur et une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous, par tous et pour tous. Qu'est-ce qui pourra bien le changer? Ce n'est pas parce que nous nous adaptons, nous nous conformons, que ça pourra changer le reste. Dieu reste le même. Cette vérité doit être en nous et nous devons sans cesse nous la rappeler et la rappeler autour de nous. La somme des différentes attaques sur l'Église et sur notre foi individuelle cause malheureusement d'énormes dégâts tels que le refroidissement, le scepticisme, l'incrédulité, la rétrograde, le renfermement, le sectarisme, le dogmatisme, l'abandon de la foi. Face à toutes ces agressions externes et internes, si nous ne faisons pas preuve de sensibilité, de discernement, de prévenance et de précaution, nous risquons de nous laisser entraîner au loin et très loin même sur un chemin et vers une destination complètement opposée à celui sur lequel nous devons marcher, Jésus étant le chemin, et vers laquelle nous devons cheminer. Nous cheminons tous vers le royaume de Dieu. C'est notre destination. Alors que faire? Gloire à Dieu. Il nous donne les moyens. Il nous donne les possibilités, les capacités. Il nous revient donc de nous enraciner dans la parole de Dieu et de garder l'enseignement reçu. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul rappelle toujours, chaque fois, lorsqu'il doit répondre à une question de l'Église. Et dans 1 Corinthiens 15, justement, versets 1 et 2, il dit, « Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés. Si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée, autrement, vous auriez cru pour rien. » La bonne nouvelle, la parole de Dieu, s'enraciner, c'est notre fondement. Autre moyen à disposition, développer une vie de prière assidue. Que la prière soutienne votre persévérance, bien-aimé. Que la prière soutienne notre persévérance. Colossiens 4, verset 2. Soyez vigilants dans ce domaine, pleins de reconnaissance envers Dieu. Soyons vigilants vis-à-vis de notre vie de prière. Très important. Et autre point marquant, il est important de nous enraciner dans l'amour. Éphésiens 3, verset 17 dit « Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé sur l'amour, la fondation de notre persévérance, la fondation de notre fermeté. Aimez-vous les uns les autres ardemment de tout votre cœur. » Et on connaît tous les autres versets qui se rapportent à l'amour. L'amour n'aura pas de fin. Toutes les choses cesseront. Mais accrochons-nous à ce qui n'aura pas de fin. Établissons-nous sur ce qui n'aura pas de fin. Aussi, nous devons demeurer dans la communion avec les frères et sœurs, parce que c'est une force. le soutien des uns et des autres m'édifie, me solidifie. Dans Hébreux 13, verset 1, il dit « Que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester. » Et dans Hébreux 10, verset 24, il dit « Veillons les uns sur les autres. » Amen. C'est parce que je veille sur mon frère que je peux à un moment donné me rendre compte qu'il n'est pas là. Et quelque chose se passe. Je m'inquiète. Non seulement je pars devant Dieu, mais aussi je peux partir devant cette personne pour savoir ce qui ne va pas. Et ensemble, nous encourager, faire équipe pour avancer. Et l'une des choses aussi les plus importantes, c'est que nous devons être conscients de notre royaume. Amen. Nous devons être conscients de notre royaume. D'après Hébreux 12, verset 23, le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. Lors de notre salut, nous avons été sauvés pour le royaume de Dieu le Père. Bien qu'ici-bas nous soyons encore ébranlables, bien que nous soyons encore ébranlables, parce que nous sommes dans des situations qui peuvent nous ébranler, bien évidemment, nous sommes encore sujets à l'ébranlement, mais bien que nous soyons encore ébranlables et confrontés à des situations parfois terribles, nous avons été transportés vers ce royaume inébranlable. Amen. Quelle bonne nouvelle! Nous avons été transportés vers ce royaume inébranlable et nous appartenons dès lors à ce royaume-là, que rien ne peut bouger et que rien ne peut faire chanceler. On reconnaît ici le déjà et le pas encore que le pasteur parfois nous rappelle. Nous vivons ce royaume-là parce que dès lors qu'on a accepté Christ, nous avons été transportés dans ce royaume-là. Et en tant qu'habitants de ce royaume inébranlable, nous sommes aussi inébranlables, bien que sujets encore aux choses qui peuvent nous ébranler. Amen. Pour moi, ça a été un marqueur fort pendant la préparation de ce message. Savoir que je suis habitant de ce royaume inébranlable et qu'il n'y a rien qui peut m'ébranler parce que ce royaume-là est inébranlable et que je vis les prémices de ce royaume-là. Amen. Pour toi aussi, j'aimerais que ce soit vraiment un encouragement face à tout ce que tu peux traverser, face aux choses difficiles auxquelles tu peux être confronté. Sache que tu fais partie de ce royaume inébranlable. Aucune situation ne peut ébranler ce royaume-là. Étant donc citoyens de ce royaume, et bien que n'y habitant pas encore entièrement, nous devons apprendre à devenir chaque jour des personnes fermes et inébranlables. C'est d'ailleurs le plan et la volonté de Dieu pour nous. Dans 1 Pierre 5, verset 10, il dit « Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Amen. Oh, c'est merveilleux ce que la parole de Dieu peut nous dire. Il nous fortifiera et nous rendra inébranlables. C'est ainsi que nous ne serons plus comme des enfants, comme on a vu tantôt, des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Nous ne serons plus dirigés par nos émotions, mais nous posséderons cette racine qui pénètre au loin dans les profondeurs, mais pas dans les profondeurs mouvantes, bien évidemment, mais ces profondeurs solides et inébranlables. Étant donc ferme, étant donc inébranlable, le verset de 1 Corinthiens 15 nous dit « Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Notre fermeté, notre état inébranlable nous invite à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Donc nous sommes sauvés pour être, non seulement, mais nous sommes sauvés pour faire. Amen. Nous sommes sauvés pour faire. Alors pour faire quoi? Pour accomplir quoi? Et ce verset nous dit pour accomplir l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que l'œuvre de Dieu en fait? C'est quoi l'œuvre de Dieu? Je me suis posé cette question-là. C'est quoi l'œuvre de Dieu? Et là, je lisais le livre des Actes et j'étais conduit dans Actes 26, verset 16. les versets 16 et 18, Paul nous décrit un peu pour lui ce que c'est que l'œuvre de Dieu, selon les instructions qu'il a reçues. Alors le Seigneur qui dit à Paul, « Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur. » Première des choses, que tu sois mon serviteur. « Pour témoigner aux hommes que tu m'as vu et leur dire ce que je ferai encore, je te ferai encore voir par la suite. » Et on peut noter ici « pour témoigner ». Je t'ai choisi au milieu du peuple juif et des païens vers lesquels je t'envoie. Ah, il y a la notion d'envoyer vers les peuples juifs et vers les païens. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. Ah, c'est ça l'œuvre de Dieu. Je découvre, elle est multiple, mais en même temps aussi, on peut dire qu'elle est unique. Amen. Parce qu'elle a ses manifestations dans son exécution. Faire passer du monde des ténèbres au royaume inébranlable et solide de notre Dieu. Faire passer. Apporter la guérison à ceux qui en ont besoin. Rendre témoignage. Aller. Faire l'œuvre de Dieu. En bref, nous pouvons dire de manière plus simple que faire l'œuvre de Dieu, c'est assurer la propagation de sa parole et l'accroissement de son règne en dehors et en dedans. En dehors, auprès de ceux qui ne le connaissent pas. En dedans, au milieu de nous. Amen. Assurer cette vie de la parole, son accroissement dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos intimités, que la parole soit souveraine. C'est ça l'œuvre de Dieu. Les risques de relâchement sont courants, mais c'est en étant ferme et inébranlable que nous pouvons continuellement et de mieux en mieux travailler à l'œuvre du Seigneur. Nous sommes tous appelés au service, tous, sans exception. Et ce qu'il faut reconnaître, il y a des préalables lorsqu'on est appelé au service et lorsque généralement on est embauché ou lorsqu'on doit s'engager quelque part, on prend toujours connaissance de ce qui nous attend, de ce que c'est et dans quoi on met le pied. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas l'œuvre d'une institution, de l'Église ou je ne sais pas quoi, mais c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Rappelons-nous de l'enseignement prêché ici par Michel. Nous nous rappelons au sujet de David et du transport de l'arche. Plus particulièrement donc lorsque l'arche de l'Éternel devait être ramenée en Israël. Nous avons le texte dans 1 Samuel 6. Et là, ce texte nous parle d'une circonstance où l'arche a été sur un chariot neuf et que le voyage s'est bien passé. Tout est arrivé comme il fallait. C'était les Philistins qui ne connaissaient pas Dieu et qui ont eu cette audace de mettre l'arche sur le chariot neuf. Mais ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu relative au transport de l'arche. Le même acte accompli plus tard par David va entraîner un résultat catastrophique. Catastrophique. Uzza a été frappé sur le champ. Alors que, on l'avait bien vu, Michel, on l'avait bien expliqué, le pauvre, il voulait soutenir l'âge, tout simplement. David connaissait la volonté de Dieu, mais a voulu agir comme les Philistins. Et là, il a fait l'expérience de travailler loin de la pensée de Dieu. L'œuvre de Dieu s'accomplit aussi selon la pensée de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre, ce n'est pas l'œuvre de David. Nous ne pouvons pas aider Dieu dans son œuvre. Amen. Que de choses parfois nous entreprenons avec d'excellentes intentions et le réel désir de travailler à l'œuvre de Dieu. Que de choses, avec de réelles motivations parfois. Mais le résultat ressemble à celui de David, malheureusement. Car l'apparence, malheureusement, a pris le dessus sur tout. C'est parfois l'apparence. Rappelons-nous en tout temps que c'est dans l'obéissance à la parole qu'il convient d'opérer et en laissant le soin à Dieu d'agir et de régler les choses jusqu'au bout. Rappelons-nous cela. Psaume 127, verset 1 dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, y travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Pour son œuvre, Dieu nous équipe. Pour accomplir l'œuvre de Dieu, nous ne sommes rien sans son équipement en nous. Nous avons obtenu la grâce du salut. Étant au bénéfice de cette grâce, engageons-nous sans réserve et sans retenue dans l'œuvre de Dieu. Cette grâce s'affirmera en nous, nous mettra en marche, nous remplira de capacités et nous identifiera. Dans l'œuvre, c'est la puissance de la grâce en nous qui peut faire et qui fait au-delà de ce que nous demandons et même nous pensons. La puissance de la grâce. C'est la grâce qui nous permet de reconnaître et de nous accepter tels que nous sommes, dans nos limites, dans nos forces, dans nos faiblesses. Dans 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit, « Par la grâce, là c'est Paul qui dit, je suis ce que je suis, par la grâce. » Et c'est cette grâce qui nous permet de nous affirmer et qui produit du fruit à travers nous. Ce n'est pas nous qui produisons. Et ce qui est merveilleux, c'est que Paul l'avait bien compris. Et il dit toujours dans le verset 10 de 1 Corinthiens 15, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. J'ai travaillé plus que tous, mais une nuance encore. Il veut davantage être clair. Non pas moi, physiquement que vous voyez, mais la grâce qui est en moi. » Amen. Parce qu'il était au bénéfice de cette grâce-là. Il reconnaissait cette grâce qu'il avait reçue de pouvoir travailler. Et c'est dans cet engagement qu'il reconnaissait que c'est cette grâce qui opérait en lui. C'est dans l'action qu'il pouvait se rendre, ce n'était pas ses forces. Ce n'était pas lui, Paul, qui agissait, mais c'est la grâce de Dieu qui était en lui. Il est aussi important de pouvoir travailler dans l'appel, bien-aimé. Important d'identifier et de travailler dans notre appel individuel et dans l'appel de notre communauté, de notre Église. Travailler dans son appel, c'est répondre déjà à l'appel de Dieu. Amen. En travaillant dans mon appel, je réponds à l'appel de Dieu. Dieu nous équipe et chacun de nous est appelé à utiliser un don. Talent ou un talent qui lui a été donné. C'est généralement en servant le Seigneur que l'appel au ministère se produit. Là où on a des difficultés parfois à identifier son appel. Dans le service, l'appel se produit. Parce que un tel aurait vu en toi des capacités et parce que dans la prière, on se soutient, te dira, « Ah, ben tiens, je te vois dans tes... Ah bon? Ok, bon, ben, peut-être c'est un chemin pour moi. » Et on s'y engage. Et voilà qu'on est efficace, on produit du résultat. Il est bien, il est donc bien de servir Dieu et par l'épreuve du service de tester nos dons. Ce qui peut nous aider à identifier notre appel, tester nos dons. Soyons aussi ouverts lorsqu'on nous dit, je crois que c'est un peu approximatif ce que tu fais là. Ah bon? Ok, peut-être qu'il vaut mieux que je parte ailleurs. Mais très souvent, on n'est pas toujours ouvert à ça. On prend ça comme quelque chose qui vient nous casser, mais pas forcément. Ça peut être tout simplement une parole qui nous aide davantage à mieux peaufiner les choses, à mieux cibler là où on doit y aller. Travailler dans son appel passe aussi par l'identification et l'approbation des autres personnes dans l'Église. Nous sommes un corps. Et regardez ce qui s'est passé dans Actes 13, verset 1 à 13, qui dit « Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, il les laissait partir. C'est parce qu'ils étaient tous ensemble. et qu'il priait pour l'identification de l'appel. Et que le Saint-Esprit, à ce moment-là, pouvait leur dire, mettez à part Barnabas et Paul. Et là, plus tard, nous savons tout ce qui s'est passé. Ils sont entrés pleinement dans leur appel. Mais je ne pense pas qu'ils se sont levés par eux-mêmes ce jour-là pour dire, ah ben nous, on se sent capables de pouvoir accomplir telle chose. Non. La parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part. Amen. Ça peut se produire aussi dans l'Église, où on dit, mettez telle personne à part. On voit telle personne plus dans tel domaine. Et là, avec un cœur obéissant, on entre dans ce domaine-là. Il est aussi important de travailler la dépendance au Seigneur et à l'Église. On dépend du Seigneur, mais on dépend aussi de l'Église. Les caractères de ce monde sont les mêmes depuis l'origine. Il n'y a rien de nouveau sur la terre, on le sait bien. Ces caractères s'affirment davantage et notre foi devient de plus en plus difficile à vivre. Ils nous limitent, nous rendent inopérants. C'est pourquoi nous sommes interpellés sur la nécessité d'une dépendance au Seigneur, car l'œuvre dans laquelle nous nous investissons, c'est son œuvre. Cette dépendance est également vis-à-vis des frères et sœurs et de l'Assemblée. Amen. Nous nous dépendons les uns les autres. Dépendance sans laquelle notre travail peut être effectivement limité et infructueux. Cette double dépendance, ou tout au moins la communion avec le Seigneur et avec les frères, est très importante dans ce sens qu'il nous donne de travailler dans la volonté et les directives de Dieu et d'avoir le soutien de sa communauté. Soutien dans la prière, dans le conseil, dans les moyens. Il est réconfortant et encourageant de se savoir soutenu, d'avoir l'approbation et l'accompagnement qui est nécessaire dans la mission à mener. C'est ainsi qu'on est gardé de son propre ego et des pièges de l'ennemi. Qu'on peut être averti des potentiels dérapages et même recevoir la répréhension si besoin. Si on est ouvert, bien évidemment, à la répréhension. On peut recevoir non seulement l'encouragement, mais on peut aussi recevoir la répréhension. C'est toujours dommage parfois qu'il y ait quelques-uns qui s'engagent sur le chemin de l'indépendance et qui le justifient en tenant des propos comme « c'est parce que je ne suis pas compris par mon Église ». Et d'ailleurs, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir l'approbation du Seigneur. On se met parfois dans cette attitude-là. Et ce n'est pas à notre avantage. Travaillons à l'œuvre du Seigneur, sachant que ce que nous ferons n'est pas vain. Des récompenses sont certaines, maintenant et après. Notre travail ne sera jamais vain, Hébreux 6, 10. À travers notre engagement, nous produisons et recevons la joie. Amen. Rappelons-nous de la parabole des talents. Lorsque le maître dit à ses serviteurs, « Bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en ce qui est peu, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, entre dans la joie, reçois la joie, sois rempli. » Lorsqu'on entre dans la joie, ça veut dire qu'on est submergé de cette joie-là. On est rempli de cette joie-là. Et dans Luc 10, verset 21, les disciples sont rentrés après que le Seigneur les avait envoyés deux à deux. Et ils faisaient leur rapport. Et la parole nous dit, en ce même moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Amen. Jésus tressaillit de joie à l'écoute de tout ce qui se passait. Ah ben, je souhaite vraiment qu'ensemble on puisse vivre ce moment-là. Et il m'est arrivé de vivre cet instant. Et je me rappelle après une tournée d'évangélisation, j'étais invité à repartir rencontrer des missionnaires de cette ville-là qui s'occupaient d'un ministère assez important. Et il m'avait dit, Édouard, on a un camp de jeunes, est-ce que tu peux nous apporter la parole pour les jeunes, pour les encourager? Et j'étais arrivé, j'étais à la gare routière, j'attendais donc qu'ils viennent me chercher en voiture. Et là, une personne qui m'accoste. Bon, ben, d'accord, je me disais, peut-être c'est la personne qu'on a envoyée venir me récupérer à la gare, mais non. Et cette personne, j'ai répondu à son bonjour, mais elle a insisté, me dit, certainement vous ne me connaissez pas. J'ai dit non, pas à vue d'œil, non, je ne vous connais pas. Et là, elle me dit, rappelez-vous, vous étiez venu il y a quelques mois avec un groupe d'enfants. J'étais l'une des personnes qui était dans le public et j'avais répondu à l'appel du salut. Et depuis, je suis dans l'église. Bien aimé. Je sais pas comment vous décrire, mais il y a un frisson de joie qui m'a traversé. J'aimerais vivre encore cette frisson de joie-là, mais je n'y arrive pas. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse encore. À cet instant, mon cœur a tressailli. J'ai vécu et je ne l'ai plus jamais vécu. Je ne l'ai plus jamais vécu. C'est fort, c'est exceptionnel de se voir traversé par cette joie. Cette personne qui, je sais pas comment elle avait pu me remarquer, me reconnaître, et je revenais uniquement deuxième fois dans cette ville et elle pouvait rendre un témoignage pareil. Il le fallait. Et je rends grâce à Dieu, vraiment. Je soupire après ce moment-là encore. À travers notre œuvre, dont nous recevons aussi les bénédictions qui accompagnent notre service, la guérison, la libération, la restauration, les solutions, la réconciliation. Amen. Et aussi, nous expérimentons le royaume de Dieu et ses manifestations. Aussi, une chose importante lorsqu'on est engagé dans le service, qui n'est pas vain, l'un des résultats, c'est que nous remportons la victoire sur l'ennemi. Luc 10, versets 17 à 18, toujours. Les disciples sont rentrés et iront des témoignages. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair à cause de l'engagement, parce qu'ils étaient partis, ils remplissaient le service et le résultat était là. Amen. Ça veut dire que notre engagement dans le service produit ce résultat-là, la chute de Satan et les démons qui nous sont soumis. Donc, dans quoi s'engager? Où s'engager? Ce que nous devons savoir, c'est que les missions de l'Église sont nos défis collectifs. La réécriture de la vision n'est pas une fin. Nous avons franchi une étape très importante il y a quelque temps. Mais c'est tout simplement la continuité de la vie de notre Église et le commencement d'un temps nouveau pour une vie plus dynamique à travers nos différents ministères. Lorsque toutes les missions seront déclinées dans nos ministères, voilà que nous serons davantage appelés à agir, à nous engager, à être forts. Il y a également le projet G21, ce chantier important de la transmission, qui entend nous enraciner dans la parole, nous équiper, nous rendre plus conscients des menaces qui nous guettent, afin que nous établissions une opposition efficace face à nos ennemis et également que nous agissions de manière proactive pour ne pas nous laisser surprendre. Amen. Et également la maison de prière qui doit, en principe, ouvrir ses portes. Et là, nous serons invités à répondre à l'appel de Dieu qui cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Amen. Autant de missions, autant de défis qui vont davantage s'étaler au-devant de nous et qui aura besoin de chacun de nous. Et n'oublions pas les résultats. Aucun de notre travail ne sera vain. Mais au préalable, c'est que nous devons tenir ferme. Nous devons être inébranlables. Parce que nous sommes de ce royaume-là. Et nos actions produiront du fruit pour nous-mêmes, pour notre Église, pour notre frère, pour notre sœur. Comme conclusion à ce temps de partage, rien de mieux que deux petits versets que j'ai retenus. Dans 1 Corinthiens 1, versets 8 à 9, il dit « Dieu vous affermira aussi jusqu'à la fin. Que vous soyez irréprochable au jour du Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu nous affermira. Il nous affermira afin que nous soyons irréprochables. » Et le second verset, Hébreux 6, versets 10 à 12, qui dit « Car Dieu n'est pas injuste. » Non, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. « Ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Amen. Il n'est pas injuste. Nous avons un Dieu juste. Et tout comme Paul pouvait chérir le peuple de Corinthe en leur disant « Mes bien-aimés, Je veux bien emprunter cette formule à Paul pour dire, mes bien-aimés, en m'incluant là-dessus, soyons fermes, soyons inébranlables. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et jamais notre œuvre ne sera vaine. Amen.